Et il s'agit donc de Serge Haroche, qui est né en 1944, qui est ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de physique, et de, docteur de troisième cycle et docteur d'état de physique. Il a une carrière d'abord de chercheur au CNRS, puis de professeur de physique à l'université Pierre et Marie Curie depuis 1975, et depuis 1982, il est professeur à l'école normale supérieure de Paris, où il dirige depuis 1994 le département de physique. Il a bien sûr aussi exercé à l'étranger, puisqu'il a été visiteur à Stanford, à Harvard, au MIT et à Yale. Ses publications, des publications techniques, scientifiques, plus de 180. Il est membre de l'Institut universitaire de France, de la Société française de physique, de l'American Physical Society, et aussi membre, bien sûr, de, membre de l'Académie des sciences de l'Institut, spécialiste de physique atomique, physique des lasers, optique et physique quantique fondamentale. Et c'est donc à ce titre, je passe sur les prix, hein, et il en a de nombreux. On ne peut pas tout dire, mais vous retrouvez ça sur le site internet. Il va nous parler donc ce soir de la physique quantique. Merci.
Merci beaucoup. Donc, c'est une exploration au cœur du monde quantique que je vais faire aujourd'hui avec vous. Je crois que c'est particulièrement approprié qu'on parle de physique quantique dans le cadre de cette Université de tous les savoirs. Une des raisons est que l'an 2000 marque le 100e anniversaire de la théorie des quantas. C'est en effet en 1900 que Max Planck émettait l'hypothèse que l'énergie qui était transférée entre la matière et le rayonnement l'était non pas de façon continue, comme le prévoyait la physique classique, mais par paquets d'énergie discrets qu'il a appelé les quantas, et de cette façon, il a été capable d'interpréter le rayonnement des corps chauffés, qui était complètement inexplicable par les théories physiques du XIXe siècle. 5 ans plus tard, en 1905, Einstein devait donner à cette théorie des quantas des bases encore plus solides en développant le modèle corpusculaire de la lumière, en montrant que la lumière était constituée de grains d'énergie auxquels on donna plus tard le nom de photons, et en utilisant ces grains d'énergie lumineuse pour expliquer en particulier l'effet photoélectrique, c'est-à-dire l'émission d'électrons par les métaux éclairés. Pendant les 20 ans qui ont suivi, les physiciens ont essayé d'utiliser cette théorie des quantas un peu balbutiante pour essayer de comprendre le comportement de la matière à l'échelle microscopique, en particulier le spectre des atomes. Niels Bohr a joué un rôle essentiel dans cette période et il a émis un certain nombre d'hypothèses qui ont permis de construire des modèles un peu empiriques. Mais ce n'est qu'en 1925 que, indépendamment, Heisenberg, Schrödinger et Dirac établirent 3 formes équivalentes de la théorie qui devaient lui donner les bases, qui devaient la mettre sous la forme telle qu'on la connaît aujourd'hui. Cette théorie quantique, je crois qu'on peut dire sans hésiter que c'est l'une des plus grandes conceptions, sinon la plus grande conception de l'esprit humain. Elle constitue en effet la base de toute notre connaissance du monde naturel. On a besoin de la physique quantique pour comprendre tout dans la nature, du microscopique à l'infiniment grand, macroscopique. Je vais vous donner quelques exemples. Bien entendu, comprendre le fonctionnement des particules, les propriétés des particules, des atomes, des molécules, toute la chimie sont à base de physique quantique. Si l'on considère les systèmes macroscopiques qui sont construits à l'aide d'atomes, par exemple les corps solides, eh bien, un grand nombre de leurs propriétés, la conductivité des métaux, le magnétisme, la supraconductivité ne peuvent être compris qu'à partir des lois de la physique quantique. Même la vie qui a fait l'objet des premières conférences de cette série est à la base. Pour la comprendre à la base, il faut admettre les concepts quantiques dans la mesure où les processus physico-chimiques qui se déroulent au niveau microscopique, par exemple dans la molécule d'ADN, sont des processus chimiques de nature quantique. Enfin, quand on va dans le domaine macroscopique, par exemple, lorsqu'on étudie la cosmologie, c'est-à-dire l'origine de l'univers et son histoire, eh bien, la physique quantique joue un rôle essentiel, en particulier pour comprendre ce qui s'est passé dans les premiers instants au moment du Big Bang. Vous savez que les physiciens cherchent actuellement ce qu'ils appellent la théorie unifiée, celle qui va décrire par un ensemble conceptuel unique l'ensemble des interactions dans l'univers. Si cette théorie trouve un jour le jour, eh bien, nul ne doute que la physique quantique sera à sa base. Donc, c'est vraiment une théorie qui, au cours du XXe siècle, a eu une importance fondamentale. Et pourtant, malgré ses succès, on peut dire que la physique quantique est étrange et qu'elle continue à donner lieu à des discussions animées d'interprétation. Ceci est dû au fait qu'elle est basée sur des concepts qui sont très éloignés des concepts de la vie quotidienne. On va introduire la notion de superposition d'états dans cet exposé, la notion d'intrication d'états également. Ce sont des notions dont on n'a absolument aucune idée dans la vie quotidienne. Et ces notions conduisent à leur tour à l'apparition de phénomènes comme les interférences quantiques, le dualisme onde-corpuscule, dont vous avez sans doute entendu parler, et la non-localité, le fait qu'un système physique étendu ne peut pas être décrit uniquement comme la somme de ses parties, mais a des propriétés qui dépendent de l'ensemble du système tout entier. Alors ceci est très étrange pour nos esprits qui sont habitués au monde tel qu'il nous entoure, parce que ces phénomènes ne s'observent pas dans le monde macroscopique. Lorsque vous regardez ce qui se passe dans le monde qui nous entoure, toute la physique semble obéir à une logique classique à laquelle on est habitué, et donc ces phénomènes qui se déroulent au niveau microscopique nous paraissent un peu extraordinaires. Eh bien, ceci était évidemment parfaitement perceptible aux fondateurs de la théorie quantique. Lorsque la théorie s'est établie en 1925, il y a eu 2 ans après une fameuse conférence, la conférence Solvay de 1927, dans laquelle toutes les personnes qui avaient participé au développement de la théorie ont été réunies, les anciens comme Einstein, mais aussi des gens plus jeunes comme Heisenberg, De Broglie, Dirac, Schrödinger, et ils ont tous discuté des implications de la théorie. Il y a eu des débats animés, souvent passionnés, entre les tenants du classicisme et ceux qui ont décidé qu'il fallait abandonner complètement le classicisme. Et pour décrire, pour illustrer leur débat, ils ont pris l'habitude d'imaginer des expériences virtuelles, qu'on appelle des expériences de pensée, dans lesquelles ils imaginaient qu'on était capable d'isoler dans l'espace, par exemple dans une boîte, un seul atome ou un seul photon, et on les forçait en les manipulant à exhiber, à montrer de façon évidente les propriétés quantiques, avec, dans l'espoir pour certains, de mettre en évidence des contradictions internes à la théorie quantique. On voit par exemple ici, j'ai essayé, je ne sais pas si ça apparaît très clairement, je ne sais pas s'il faut focaliser un petit peu, très clairement, un dessin que Bohr avait fait à cette occasion d'une boîte à photons dans le cadre d'un débat où il s'agissait de savoir si on était capable de mesurer simultanément avec précision l'énergie d'un photon et l'instant où il était mis. Dans toutes ces discussions, on peut dire que la théorie quantique s'en est sortie très bien, et les gens qui, comme Einstein ou Schrödinger, ont essayé de jouer les avocats du diable, ont finalement dû renoncer à ce moment-là. Une grande partie des physiciens, à ce moment-là, a abandonné ce type de débat et a abandonné la discussion portant sur des expériences complètement infaisables, surtout à l'époque, et a décidé d'utiliser la théorie quantique pour vraiment faire des choses utiles, c'est-à-dire calculer des phénomènes réels, avec le succès dont je vous ai parlé il y a un instant. Néanmoins, depuis quelques années, on revient à ces idées d'interprétation, et je crois qu'une des raisons pour lesquelles ce débat se rouvre actuellement, c'est que ces expériences de pensée sont devenues réalisables en pratique. Grâce au progrès de la technologie, on peut maintenant réellement piéger dans une boîte un seul photon ou un seul atome, les manipuler à l'aide de faisceaux laser, et réaliser avec de petits ensembles de ces atomes ce que j'appellerais des versions miniatures d'expériences de pensée, où on voit déjà in vivo, pour ainsi dire, se produire ces phénomènes quantiques. Alors, ceci a un intérêt, bien sûr, pour essayer de comprendre mieux les principes de la physique quantique, les tests des fondements de la théorie quantique, mais aussi parce que certains pensent à de possibles applications. Si on était capable d'augmenter la taille de ces petits systèmes et de maintenir jusqu'à des tailles raisonnables des systèmes dans lesquels la logique quantique continuerait à se manifester, eh bien, comme j'essaierai de vous le montrer à la fin de cet exposé, on pourrait faire des choses absolument fantastiques. Donc il y a de nombreuses motivations, curiosités et applications possibles. Et c'est à l'étude de ces expériences que je voudrais consacrer cet exposé, vous montrer comment on peut fabriquer ces expériences et qu'est-ce qu'elles apprennent sur la physique. Mais pour commencer, il faut essayer de rappeler pour certains et d'apprendre peut-être à d'autres ce que sont ces principes que j'ai évoqués il y a un moment. Qu'est-ce que c'est que le principe de superposition ? Bien, le principe de superposition, c'est un principe qui, en quelque sorte, montre que les particules possèdent une espèce de propriété d'ubiquité. Si une particule peut se trouver, par exemple, à 2 endroits dans l'espace, ici et là, alors la physique quantique dit qu'elle peut également se trouver en quelque sorte suspendue entre ces 2 situations classiques et être à la fois dans les 2 endroits, d'une façon que je vais essayer de préciser un peu plus maintenant. En physique classique, si vous avez une particule dans une boîte, ce que j'ai essayé de dessiner ici, même si vous n'avez pas ouvert la boîte, nul ne doute que la particule va se trouver à un endroit bien précis. Elle va être ou au point R1, ou au point R2, ou au point R3. La description quantique est différente. La particule peut se trouver simultanément dans les différents points. Et en fait, on exprime ceci par une équation que j'ai essayé d'écrire, une expression que j'ai essayé de représenter ici. Alors, je vais très peu utiliser d'équation dans cet exposé, mais je vais le faire ici, parce que je pense que c'est assez important. Je vais adopter ici les notations que Dirac a introduites dans la théorie pour décrire l'état physique d'un système. On a pris depuis lors l'habitude de représenter ce système par des symboles mathématiques qui décrivent le système, par exemple ici R1, la position, entre des crochets. Et donc ce symbole, un crochet avec à l'intérieur un certain nombre de paramètres physiques, décrit l'état du système correspondant. Eh bien, ce que dit la physique quantique, c'est que le système se trouve dans une superposition, avec des signes plus ici, au sens des superpositions ordinaires des mathématiques, des états du système entre ces différents états. Alors, je ne peux pas vous rentrer dans le détail de la théorie mathématique, mais vous devez admettre qu'on peut combiner ces états comme on le ferait de nombres ou de vecteurs, plus précisément, dans un espace ordinaire, ajouter les états et les multiplier par des constantes, ici, psi 2R1, psi 2R2, psi 2R3, qui affectent chacun des états d'un poids particulier. Cette fonction psi 2R, que j'introduis ici, est la fonction, ce qu'on appelle la fonction d'onde de la particule. Elle a été introduite en physique par De Broglie en 1923. C'est un nombre complexe. Alors, qu'est-ce que c'est que je peux vous rappeler également en quelques mots ce qu'est un nombre complexe. Un nombre réel correspond à la position, par exemple, d'un point sur une droite ou la longueur d'un segment sur une droite. Un nombre complexe est représenté par un vecteur dans un plan, c'est-à-dire qu'il a non seulement une longueur, mais également une phase qui correspond à la direction du vecteur. Donc, la fonction d'onde est un nombre complexe. Et cette fonction d'onde a reçu un statut absolument indiscutable en physique lorsque Schrödinger, un ou deux ans après De Broglie, a trouvé l'équation qui décrit la façon dont cette fonction évolue dans le temps et donc a posé les bases de la dynamique quantique. Et c'est cette équation de Schrödinger qui est fameuse et qui a permis l'explosion de la physique quantique dans les années 20. Enfin, l'ensemble de la théorie a été achevé par Max Born en 1927 quand il a donné l'interprétation de cette fonction d'onde. Il a dit que le carré de cette fonction d'onde représente la probabilité, quand on fait une mesure, de trouver la particule en R1 ou en R2 ou en R3. On voit ainsi, donc, et j'en aurais fini là avec les idées générales du formalisme quantique, le point essentiel. La superposition d'états, c'est le fait que le système est suspendu de façon un peu schizophrénique entre différents états, ne subsiste que tant qu'on ne fait pas de mesure, tant que l'on ne cherche pas à savoir où se trouve la particule. Si l'on veut faire une mesure, on va obtenir un résultat. La probabilité de ce résultat sera donnée par le carré du coefficient qui se trouve devant l'état correspondant. Et vous voyez là un aspect fondamental de la physique quantique, elle est probabiliste. Les superpositions d'états disparaissent lorsqu'on fait une mesure, mais non seulement elles disparaissent, mais elles disparaissent de façon fondamentalement aléatoire, c'est-à-dire que le résultat de la mesure ne peut être prévu que de façon statistique et pas de façon certaine. En physique classique, on s'attend, lorsqu'on connaît les conditions initiales, à pouvoir décrire de façon certaine l'évolution du système. En physique quantique, on doit renoncer à cela. Et c'est ce que Einstein disait dans une formule lapidaire lorsqu'il disait que selon la mécanique quantique, Dieu jouait au dé avec l'univers. Il y avait en permanence un jeu de probabilité quantique et cette idée que Dieu jouait au dé déplaisait fondamentalement Einstein et on reviendra sur ce point un peu plus tard. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais été confrontés avec le principe de superposition, je crois que vous avez dû en voir indirectement certains aspects. Par exemple, si vous avez fait de la chimie, vous savez qu'on représente l'état d'un électron dans un atome, par exemple ici l'atome le plus simple qui est l'atome d'hydrogène, par une orbitale, un volume de l'espace autour du noyau. Par exemple, l'état fondamental dans l'atome d'hydrogène est une petite sphère de diamètre 1 angstrom autour du noyau. Cette orbitale représente la région de l'espace où l'électron se trouve délocalisé. Donc lorsqu'on dessine une orbitale comme celle-là, on sous-entend que l'électron se trouve dans une superposition de toutes les positions possibles à l'intérieur du volume correspondant. Lorsqu'on excite l'atome, par exemple en lui faisant absorber un photon, on le porte dans un état excité, la forme de l'orbital a changé, et à nouveau, l'électron peut se trouver n'importe où dans cette orbitale de forme différente. Enfin, on peut porter l'électron dans un état très excité, je l'ai dessiné ici en vert, c'est ce qu'on appelle un état de Rydberg. Dans cet état de Rydberg, l'électron est délocalisé dans un tore de très grand rayon, qui peut faire 1000 angstroms de rayon. Ce sont des états atomiques très excités qui ont des propriétés particulières sur lesquelles je reviendrai. Donc voilà ce qu'on peut dire du principe de superposition. La conséquence essentielle du principe de superposition, c'est l'existence des interférences quantiques. et pour vous faire comprendre un peu de quoi il s'agit, je reprends une expérience très simple, qui est l'expérience des fentes de Young. C'est une expérience de physique classique qui date du début du 19e siècle, que Young a faite en 1800 avec de la lumière, c'est-à-dire avec des photons, et qui a été reprise depuis avec toutes sortes de particules au fur et à mesure du développement de la technologie, avec des électrons dans les années 20, avec des neutrons dans les années 50, des atomes dans les années 80 et des molécules dans les années 90. Donc toutes les particules microscopiques sont susceptibles d'interférer de cette façon. Alors comment est-ce qu'on fait l'expérience? On a une source qui émet les particules. La particule traverse un écran percé de deux fentes et puis est récoltée sur un deuxième écran derrière. Et lorsque l'on effectue l'expérience en la recommençant un grand nombre de fois, eh bien, on voit finalement se former, je pense que vous le voyez là malgré le flou de l'image, une figure d'interférence avec des franges, une alternance de franges brillantes où les particules arrivent le plus souvent et de franges sombres où les particules n'arrivent jamais. Et au début, alors malheureusement on ne le voit pas là, mais au début, eh bien, on voit des points d'impact discrets et aléatoires qui vont former la figure d'interférence lorsque le flux de particules va devenir suffisant. Alors pour comprendre ce phénomène, on n'a pas trop de mal à le comprendre à partir de l'image de la fonction d'onde. On peut dire en effet que la fonction d'onde de chaque particule dans cet appareil est la somme de deux termes, une contribution ψ1 qui correspond au passage par le trou du haut et une contribution ψ2, que j'ai dessinée en bleu et qui se voit assez mal là, qui correspond au passage par le trou du bas. La fonction d'onde totale est la somme de ces deux contributions. En certains points de l'écran, les deux nombres complexes, c'est-à-dire les deux petits vecteurs associés, s'ajoutent, donc la fonction d'onde est renforcée. En d'autres points, au contraire, les deux amplitudes se retranchent parce que leurs phases sont différentes et on voit, au contraire, que la probabilité de trouver la particule devient nulle. Comme la phase relative entre les deux fonctions d'onde ψ1 et ψ2 varie très vite lorsqu'on déplace le point sur l'écran, on voit ainsi une alternance de franges sombres et de franges obscures. Ça, c'est l'interprétation, je dirais, ondulatoire. Cette interprétation, cependant, pose de graves problèmes lorsque on essaye de reprendre l'expérience avec des flux correspondant à des flux très, très faibles de particules. J'ai oublié de dire, bien sûr, un point fondamental, c'est que si vous fermez une des deux fentes, les figures d'interférence disparaissent, les particules peuvent arriver n'importe où sur l'écran. Alors, que se passe-t-il si on fait l'expérience avec une seule particule à la fois, c'est-à-dire si on réduit l'intensité de la source au point qu'il n'y a qu'une particule dans l'interféromètre à un instant donné? Eh bien, on constate qu'en accumulant les données pendant un temps suffisant, ça va prendre plus de temps, on va reconstituer la même figure d'interférence. Autrement dit, les interférences se produisent même s'il n'y a qu'une particule dans l'interféromètre. Un physicien classique, à ce point, va se trouver fortement déboussolé parce qu'il va se poser des questions évidentes. Il va se dire, si je vois les interférences, ça veut dire que les deux trous sont ouverts. Comment est-ce qu'une particule unique qui traverse l'interféromètre sait en passant par un trou si l'autre est ouvert ou non? La question qui va se poser immédiatement, c'est par quel trou passe la particule? Et si elle passe par un trou, comment sait-il si l'autre est ouvert ou non? La physique quantique ne se pose pas du tout ce genre de questions. Quantiquement, on doit admettre que tant qu'on ne cherche pas à savoir par quel trou la particule est passée, elle se trouve dans une superposition de deux états correspondant au passage par chacun des deux trous, et dans ce cas, il n'y a pas de problème à comprendre les interférences. J'insiste ici sur la logique non classique de la nature. Si vous vous mettez au voisinage d'une frange sombre, la particule n'arrivera jamais en ce point. Ça veut dire que la particule ne peut pas arriver en ce point si les deux trous sont ouverts, alors qu'elle peut y arriver s'il n'y a qu'un seul trou ouvert. Autrement dit, vous avez là un phénomène qui est moins probable quand vous donnez deux possibilités à la nature pour le réaliser que lorsque vous n'y en donnez qu'une seule. Et ça, c'est complètement incompréhensible en termes classiques. Alors je répète que ce type d'expérience a pu être fait avec toutes sortes de particules, jusqu'à des molécules relativement grosses récemment, mais évidemment, plus on augmente la taille des particules, plus ça devient difficile. Il y a un moment où les interférences se brouillent, personne n'a jamais vu d'interférence de boules de billard ou d'objets macroscopiques. Il va falloir qu'on se pose la question pourquoi dans un instant. Alors ces interférences, on les voit un peu partout dans la nature. Elles jouent un rôle essentiel pour expliquer des phénomènes naturels, mais elles peuvent également être réalisées artificiellement dans des appareils qu'on appelle des interféromètres, où on peut les utiliser pour faire des choses pratiques. Je vais vous donner un exemple ici d'une situation où on fabrique des interférences. Je considère un système qui est un seul atome, qui possède deux niveaux d'énergie, un niveau inférieur que j'ai dessiné ici en violet, que j'appelle G, et un niveau supérieur que j'ai dessiné en vert, que j'appelle E. L'atome peut passer de G à E en absorbant un photon si la fréquence du photon obéit à la relation de Planck, H nu ou H est la constante de Planck, est égale à la différence d'énergie entre l'état excité et l'état fondamental. La conservation de l'énergie implique que l'atome passe de l'état inférieur à l'état supérieur en emmagasinant l'énergie H nu du photon. Pour cela, il suffit d'éclairer avec une lumière convenable l'atome. Il est clair que la probabilité pour que l'absorption se produise est une fonction de la durée de l'éclairage. Et on peut fixer l'éclairage pour qu'il dure exactement le temps qu'il faut pour que l'atome ait une probabilité de 50% d'avoir absorbé le photon. Dans ce cas, la physique quantique montre, et c'est vérifié expérimentalement, que l'atome se trouve porté dans une superposition, au sens des superpositions que je décrivais tout à l'heure, de l'état G et de l'état E. Il est à moitié, il est à la fois dans l'état G et dans l'état E avec des probabilités égales. Alors évidemment, c'est irreprésentable classiquement. J'ai essayé de le représenter en superposant sur ce transparent les images floues des deux niveaux. Et comme en plus la projection est floue, ça devient vraiment fantomatique. Et vous avez peut-être une idée de ce qu'est la superposition quantique de cette façon-là. Alors maintenant, imaginons qu'on applique deux impulsions successives. Vous voyez, l'atome est initialement dans l'état du bas. Et on applique deux impulsions qui mélangent à part égale les niveaux E et G. Et finalement, on essaye de mesurer l'atome dans l'état supérieur. Autrement dit, on se demande comment l'atome est passé de l'état inférieur à l'état supérieur par deux impulsions successives aux instants T1 et T2. Eh bien, si on analyse cette expérience, on voit qu'il y a encore là un problème d'interférence. L'atome peut en effet avoir absorbé le photon soit dans la première zone, soit dans la seconde. Le photon est indivisible. Il a ou pas absorbé le photon. Donc on ne peut pas dire qu'il a à moitié absorbé le photon. Il a absorbé le photon complètement ou dans la première ou dans la deuxième zone. Si on ne sait pas et si on n'a aucun moyen de savoir dans quelle zone il a absorbé le photon, on a deux amplitudes, deux fonctions d'onde partielles correspondant à chacun de ces chemins. Ces amplitudes interfèrent et si on fait varier la phase relative de ces deux amplitudes, par exemple en changeant la fréquence nue autour de la valeur de résonance atomique, on observe de magnifiques franges. Vous voyez que la probabilité pour que l'atome se trouve dans l'état G oscille entre 0 et 1. Et on a des franges qui sont différentes des franges de Young, qu'on appelle ici, dans ce cas-là, des franges de Ramsey, du nom du physicien américain qui a développé cette méthode interférométrique. Alors, ces franges de Ramsey, elles jouent un rôle capital en spectroscopie et surtout en métrologie. Vous savez que la seconde est définie sur l'horloge atomique à césium, et la transition de l'atome de césium qui pilote l'horloge atomique est explorée à l'aide de ces franges de Ramsey. Donc, vous voyez que l'étrangeté quantique est quand même utile puisqu'elle sert à définir le temps et donc et à des tas d'applications dans la vie quotidienne. Alors, un dernier mot sur ces interférences. Je vous ai dit qu'elles ne s'observent que si on ne cherche pas à savoir par quel chemin est passée la particule. Toute information sur le chemin va détruire les interférences. En fait, vous voyez que les interférences se produisent si on n'a aucun moyen de savoir par quel chemin la particule est passée. Elle est alors suspendue entre les deux chemins. Si on cherche à savoir par quel chemin la particule est passée, on a un moyen de le faire. Par exemple, il suffit dans l'expérience des fentes de Young que l'on éclaire l'écran par une source lumineuse, par exemple un laser qui envoie un pinceau lumineux sur l'écran et qui attend que les atomes passent. Lorsqu'un atome va passer d'ailleurs par la première fente, au moment où il va passer, il va diffuser de la lumière du laser, on va avoir un flash lumineux et à l'aide d'une optique, on peut reconstituer l'origine de ce flash et savoir si la particule est passée par le trou numéro 1 ou par le trou numéro 2. Donc si on pose à la nature la question par quel trou est passée la particule, la nature répond de façon imperturbable par ici ou par là. Mais si vous regardez l'écran, à ce moment-là, les franges ont disparu. Autrement dit, le simple fait d'avoir observé le passage de la particule perturbe les relations de phase entre les deux parties de la fonction d'onde d'exactement la quantité qu'il faut pour faire disparaître les franges. Et ça apparaît parfaitement dans le formalisme même de la théorie quantique. Alors c'est ce que Bohr a exprimé lorsqu'il a énoncé en 1927 le principe de complémentarité. Bohr dit que les deux aspects, aspect particulier et l'aspect ondulatoire, l'information sur le chemin et l'existence des franges, sont deux aspects exclusifs du système qui ne peuvent s'observer que l'un ou l'autre, mais pas les deux à la fois. Ce sont deux aspects complémentaires de la réalité physique. Et pour observer l'un ou l'autre, il faut que l'appareil expérimental soit spécifique. Par exemple, cet appareil-là va observer l'aspect corpusculaire, cet appareil-là va observer l'aspect ondulatoire. Et se poser la question dans l'abstrait, se demander si un système est une particule ou une onde, sans spécifier en même temps dans quelles conditions expérimentales on l'étudie, n'a, au sens de la mécanique quantique, telle que Bohr l'a développée, l'interprétation orthodoxe de la mécanique quantique, n'a pas de sens. Donc voilà déjà des choses assez étranges à ce niveau, mais il y a encore beaucoup plus étrange dès qu'il y a plus d'une particule à la fois dans le système. Et ceci va nous conduire à l'autre concept important, qui est le concept d'intrication. Et pour le décrire de façon un peu précise, je vais prendre une situation spécifique. Je vais considérer la collision de deux atomes toujours notre atome fameux qui a un état violet fondamental, un état vert excité, et je vais supposer que mes deux atomes identiques sont l'un dans l'état excité, l'autre dans l'état fondamental, qu'ils rentrent en collision et puis qu'ils se séparent. Deux choses, alors la collision est élastique, c'est-à-dire qu'elle conserve l'énergie. Il peut se passer deux choses. Ou bien chaque atome conserve son énergie initiale, par exemple l'atome 1 qui était initialement vert sort de la collision dans l'état vert, l'atome 2 qui était initialement violet sort de la collision dans l'état violet, ou bien les atomes peuvent échanger leurs énergies. L'atome 1 qui était initialement vert peut sortir dans l'état violet, et l'atome 2 qui était dans l'état violet peut sortir dans l'état vert. Les deux processus conservent l'énergie et sont possibles. S'il s'agissait de physique classique, la nature devrait choisir, ce serait ou l'un ou l'autre. Mais maintenant, je pense que vous commencez à être un peu habitué à la façon dont résonne la nature quantique. Elle n'a pas à choisir, le système peut être dans une superposition des deux états. Et lorsque vous décrivez l'état final du système, vous voyez que cet état est maintenant décrit par une fonction d'onde, un état qui est une superposition de l'état dans lequel la particule 1 est dans l'état vert et la particule 2 dans l'état violet, et d'un état dans lequel c'est l'inverse qui se produit. Les amplitudes alpha et bêta élevées au carré donnent la probabilité pour que, lorsqu'on fait une mesure, on obtienne un résultat ou l'autre. Vous voyez qu'on a une situation qui est assez particulière au sens mathématique. Cette fonction d'onde-là ne peut en aucun cas s'écrire comme un produit d'une fonction correspondant aux propriétés de la particule 1 et d'une fonction considérant aux propriétés de la particule 2. On ne peut pas factoriser une expression de ce genre. Et cette non-séparabilité mathématique et ce qu'on appelle l'intrication. Il y a un mot en allemand que j'ai oublié et un mot en anglais qui l'exprime sous la forme de entanglement. Donc intrication, c'est la traduction d'expression consacrée. Le fait qu'il y a une fonction d'onde pour l'ensemble, mais qu'il n'y a pas de fonction d'onde séparée pour chacune des parties du système. Qu'est-ce que ça veut dire physiquement? Ça veut dire que si vous effectuez la mesure de l'atome 1, vous allez le trouver avec la propriété alpha carré dans l'état vert, bêta carré dans l'état violet, c'est donc aléatoire, de même pour l'autre état. Par contre, ce qui n'est pas aléatoire, ce sont les corrélations. Une fois que vous aurez trouvé l'atome 1 dans l'état vert, l'atome 2 est forcé d'être dans l'autre état. Et si vous trouvez l'atome 1 dans l'état violet, l'atome 2 est forcé d'être vert. Autrement dit, vous avez un système aléatoire dans lequel les corrélations sont certaines. Et je n'ai pas le temps d'analyser cette expérience en détail, mais ça a été fait pour la première fois en 1935 par Einstein et ses collaborateurs Podolsky et Rosen. C'est pour ça qu'on appelle ce problème le problème EPR. Einstein, Podolsky et Rosen ont remarqué qu'une telle situation était complètement incompatible avec les concepts de physique classique. Finalement, ça introduit l'idée que lorsque vous faites quelque chose en un point, les deux atomes sont séparés et ils peuvent se trouver à des centaines de kilomètres, en principe, après leur collision. Le simple fait qu'ils se soient intriqués fait que si vous faites quelque chose sur l'un des atomes, ça va avoir un effet immédiat sur les propriétés du monde physique au niveau de l'autre atome. C'est ce qu'on appelle la non-localité, et ça déplaisait au moins autant à Einstein, je crois, que le fait que Dieu jouait au dé. C'est un aspect un peu complémentaire, mais pour cette raison-là non plus, il n'aimait pas la physique quantique. Alors, ce problème a été un débat extrêmement long en physique. En particulier, John Bell, dans les années 60, a joué un rôle important pour rendre ça sous une forme mathématique plus précise. Et il y a eu des expériences. Dans les années 70 et 80, on a fait des expériences avec des paires de photons intriqués, en particulier une très belle expérience faite par Alain Aspect à Orsay. Alain Aspect sera le conférencier demain dans cette série. Je pense qu'il parlera de ses expériences, donc je ne vais pas en dire trop aujourd'hui. Mais toutes ces expériences ont montré que la nature obéissait effectivement aux lois quantiques, n'en déplaise aux physiciens qui n'aiment pas ça. Et donc la non-localité, dans le sens que je décris là, est un fait établi. Alors c'est étrange encore parce que ce n'est jamais vu dans le monde macroscopique. On n'a jamais vu une telle intrication macroscopique. Et ceci me conduit à une autre discussion des années 30, l'intrication entre les mondes micro et macroscopiques. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça dans le monde macroscopique? Lorsque Schrödinger, en 1935, a lu le papier d'Einstein, il s'est posé la question de la mesure qui est un phénomène qui va intriquer le monde microscopique au monde macroscopique. Et il a développé son fameux paradoxe du chat de Schrödinger, sur lequel je vais essayer de dire quelques mots maintenant. Schrödinger est parti d'un phénomène extrêmement simple, bien connu du monde microscopique, qui est par exemple l'émission spontanée d'un atome excité. Prenez un atome initialement excité, au bout d'un certain temps, il peut se désintégrer, tomber dans un état du bar en émettant un photon. Ça, c'est un processus quantique bien connu, et la mécanique quantique nous dit que si on attend un temps intermédiaire, qui n'est pas trop long par rapport au temps caractéristique d'émission, le système va se trouver dans une superposition, à nouveau, de l'état où l'atome est encore excité, de l'état où il est déjà émis, avec deux amplitudes qui sont, comme d'habitude, des nombres complexes. Amplitude pour qu'il soit excité et amplitude pour qu'il ait émis un photon. Bon, jusqu'à présent, ça paraît étrange, mais les gens ne sont pas trop surpris parce qu'on a rarement vu un atome isolé émettre un photon de ses propres yeux, donc c'est une étrangeté qui ne nous paraît pas trop surprenante. Néanmoins, Schrödinger a fait remarquer à ce stade qu'un seul photon peut déclencher un événement macroscopique. On peut imaginer que ce photon tombe sur la gâchette d'un revolver qui va se déclencher lorsque le photon est émis par un processus photoélectrique quelconque et provoquer un dispositif qui va tuer un chat enfermé dans la boîte. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si l'atome a à la fois émis et pas émis? Est-ce qu'on peut dire que le chat est à la fois mort et vivant? Alors c'est le fameux paradoxe du chat Schrödinger. Quel est l'état du chat, en particulier avant l'ouverture de la boîte? Alors là encore, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Si on peut écrire une fonction d'onde pour le chat, ce que je laisse à votre sagacité, eh bien, on ne peut pas échapper au fait qu'on va avoir une situation de ce genre. Une intrication entre un état vivant du chat couplé à un atome excité et un état mort du chat couplé à un atome désexcité. Alors, ce genre de situation a fait couler beaucoup d'encre depuis le fameux papier de Schrödinger, et on s'est demandé, mais évidemment, Schrödinger a décrit dans son papier, il a dit que c'était une situation burlesque, absolument absurde, et c'est dans son esprit, je crois que ça voulait dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en mécanique quantique, également. Il était plutôt du côté d'Einstein, de ce point de vue. Mais, donc, les gens se sont dit, qu'est-ce qui décide si le chat est mort ou vivant? Est-ce que c'est l'observateur qui ouvre la boîte? Est-ce que c'est un mécanisme de la conscience de l'observateur qui va décider si le chat est vivant ou mort? À partir de là, on peut se demander, qu'est-ce qui se passe dans la conscience du chat? Est-ce qu'il ne va pas lui-même se réduire à un état vivant ou mort par le simple fait qu'il s'observe? Et très rapidement, ça vire à la métaphysique. Alors, si on veut rester dans le cadre de la physique, je crois que pour éviter de devenir fou avec ce genre de problème, il faut essayer de suivre Bohr du plus près possible. Et l'idée de Bohr, c'est si vous voulez répondre à ce genre de questions, il faut faire une expérience. Et il faut imaginer un dispositif expérimental qui peut être sensible à l'interférence entre les parties vivantes et mortes du chat. Donc, pour un expérimentateur, dire que cette superposition existe, c'est dire qu'on peut faire une expérience qui va être sensible à l'interférence, c'est-à-dire au produit des amplitudes du chat vivant et du chat mort. Alors Schrödinger n'a pas du tout imaginé une telle expérience, mais on peut pousser la description de ce paradoxe cruel un peu plus loin. À quoi est-ce qu'un chat peut être sensible? À une souris. Donc on pourrait imaginer une souris quantique qui traverserait la boîte, on lui demanderait donc de traverser la boîte, et on mesurerait la probabilité pour que la souris échappe à cette expérience. Alors si on a une interférence, il doit y avoir une amplitude pour que la souris échappe le chat étant vivant, et une amplitude, dont la grandeur est plus importante, je pense, pour qu'elle échappe si le chat est mort. Et est-ce qu'il y a un terme d'interférence entre les deux? Alors ça semble contraire à l'intuition, et la question est pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ce genre d'interférence dans le monde macroscopique? Alors la réponse tient en un seul mot, c'est la décohérence. Alors je voudrais vous dire quelques mots sur la notion de décohérence avant de passer à la description des expériences. La raison pour laquelle l'expérience que je vous décris là est un peu burlesque, c'est qu'elle a simplifié la situation à l'extrême. J'imagine que j'ai un chat, un objet qui contient quelque chose comme 10 puissance 24 ou 25 molécules, et un seul atome, et qu'on a deux donc, partenaires, l'atome et le chat, qui sont l'un en face de l'autre. Mais en fait, ça ne peut pas du tout être comme ça. Si le chat est vivant au début de l'expérience, c'est qu'il interagit avec un nombre énorme de degrés de liberté. Ce chat, il va se trouver dans un bain de molécules d'oxygène et d'azote, il va se trouver dans un bain thermique de photons thermiques de l'environnement, et il ne pourra être vivant que dans ces conditions. Et le temps qu'il va mettre à se coupler à son environnement, qui est constitué d'un nombre énorme de molécules, va être infiniment court par rapport au temps qu'il va mettre à se coupler à notre atome bourreau quantique qui va essayer de le tuer. Donc finalement, il faut tenir compte du couplage avec l'environnement bien avant de tenir compte du couplage avec le système, avec l'atome. Et ceci m'amène à une dernière remarque sur les interférences. Je vais essayer maintenant de mettre un petit peu ensemble cette idée de décohérence, d'intrication et de complémentarité. Reprenons l'expérience des fentes de Young maintenant, à la lumière de ce qu'on vient d'apprendre. Dans l'expérience des fentes de Young, vous voyez que pour localiser la particule, on a besoin de l'éclairer avec de la lumière. La particule diffuse un photon, et c'est l'observation possible de ce photon qui fait disparaître les franges. Mais vous voyez qu'en fait, ça c'est une expérience d'intrication. On intrique en fait la particule avec le photon diffusé. Et le simple fait qu'on a cette paire EPR, particule et photon, fait disparaître les franges d'interférence, et ça se comprend très bien. En détectant le photon, vous forcez la particule à se trouver dans l'état correspondant, et vous n'avez plus cette superposition cohérente des deux états. Eh bien, notre expérience avec le chat, elle est un peu comparable. Vous cherchez à avoir des interférences entre le chat vivant et le chat mort, mais le chat est entouré de tout un bain thermique de molécules, et il est clair que si le chat est mort, les molécules vont, là on les voit très peu, ce sont des molécules que j'ai dessinées en vert ici, ces molécules vont se trouver dans un état différent de ce qu'elles sont si le chat est vivant. Ça, c'est assez évident. Si vous ouvrez la boîte et que le chat est mort, vous allez sans doute le sentir très vite. Ça veut dire que les molécules qui accompagnent le chat mort sont différentes des molécules qui accompagnent le chat vivant. Mais la différence quantique est beaucoup plus subtile encore que cette différence macroscopique. Dans les premières nanosecondes qui vont suivre la mort du chat, dans l'environnement, l'état quantique des molécules va être différent. Et donc, ces molécules qui entourent le chat vont servir d'espions, qui vont déterminer le chemin dans lequel le chat a suivi, le chemin vivant ou le chemin mort. Et ce simple fait fait disparaître les interférences. C'est ce qu'on appelle la décohérence. Et cette décohérence se produit de plus en plus vite lorsque la taille du système augmente. Il est évident que lorsque vous avez un gros système comme un chat, il est couplé de façon tellement multiple avec un environnement tellement important qu'il va se passer un temps très court avant que la cohérence disparaisse. Et donc, pour toute expérience pratique, le chat est un objet classique. Alors, maintenant, ayant dit tout cela, je voudrais passer dans une deuxième partie à la description des expériences que nous avons faites qui nous ont permis d'essayer de voir un peu plus clair et de faire au laboratoire de petites versions d'expériences de pensée. Comment peut-on réaliser l'intrication dans le laboratoire? Je vais simplement passer en revue rapidement trois systèmes qui sont utilisés pour le faire. Le premier système sont des photons jumeaux. Alors, les photons jumeaux, c'est un appareillage expérimental qui est une prolongation finalement des expériences d'aspect. Depuis une vingtaine d'années, la génération de sources de photons intriqués a fait de très grands progrès. Et maintenant, on travaille avec des cristaux non linéaires dans lesquels on envoie un photon ultraviolet. Ce photon ultraviolet se scinde en deux photons visibles ou infrarouges, tels que la somme des fréquences soit égale à celle du photon ultraviolet, donc conservation de l'énergie, et on a émission d'une paire de photons. Dans des conditions convenables, un des photons de la paire est émis sur un cône, qui est le cône supérieur avec une polarisation verticale, l'autre est émis sur le cône inférieur avec une polarisation horizontale. Mais vous voyez que ces deux cônes se coupent sur deux lignes le long de deux génératrices, et le long de ces génératrices, on a une ambiguïté quantique. On ne peut pas savoir si le photon détecté avec une couleur donnée est vertical ou horizontal. Et donc, si on se limite à la détection des photons émis à l'intersection des deux cônes, on a une ambiguïté quantique fondamentale, une superposition d'états de photons polarisés horizontal et vertical, ou vertical et horizontal. Et avec ces paires de photons, de très belles expériences ont été faites, en particulier dans le groupe d'Anton Seidinger à Innsbruck. Alors, ces expériences sont intéressantes, mais dans certains cas, on peut préférer travailler non pas sur des photons qui s'échappent à la vitesse de la lumière de l'appareil, mais sur des particules massives qu'on peut conserver pour manipuler l'intrication de façon plus complexe. Alors là, on peut travailler avec des ions piégés. Des ions piégés sont donc des atomes auxquels on a prélevé un électron, donc ils sont chargés, et cette charge électrique peut servir pour les ramener par une force électromagnétique à l'aide d'électrodes convenablement disposées autour des ions en point d'équilibre. Par exemple, ici, j'ai dessiné ce qui se passe lorsqu'on a deux ions dans le piège. On peut éclairer les ions à l'aide d'un faisceau laser qui va les faire diffuser de la lumière. Et vous voyez ici une image reconstituée numériquement qui représente deux ions dans un piège à une distance de quelques microns. Et on peut fabriquer ainsi, avoir ou un ion unique ou deux ions ou une succession d'ions dans le piège. Et puis, avec d'autres lasers, on peut manipuler ces ions, les préparer dans des superpositions d'état, les faire se coupler entre eux, et de belles expériences d'intrication ont été faites avec jusqu'à 4 ions piégés dans le groupe de Boulder aux États-Unis. Enfin, un troisième type d'expérience mélange un petit peu les deux concepts précédents. On travaille à la fois avec des atomes et des photons. Alors, les photons sont piégés dans une cavité électromagnétique. Les miroirs de la cavité sont représentés ici. Ce sont deux miroirs qui se font face. Et ici, vous avez une photo de ces miroirs lorsqu'on a ouvert la cavité. Donc, les deux miroirs se font face et les photons rebondissent entre les miroirs un très grand nombre de fois, une centaine de millions de fois. Et donc, on peut piéger de cette façon le photon qui ne se propage plus à l'infini pendant un temps de l'ordre d'une milliseconde. Et comme il s'agit de miroirs métalliques supraconducteurs à très basse température, les photons qui sont piégés dans ces miroirs sont des photons micro-ondes. Et les atomes qui interagissent avec ces photons micro-ondes, ce sont nos atomes de Rydberg dont je vous ai parlé au début de l'exposé, des atomes très excités, qui sont préparés ici et qui traversent un à un le dispositif expérimental et finalement sont détectés. Alors, j'ai pas du tout, bien entendu, je n'ai pas le temps de vous décrire toutes ces expériences, mais je participe moi-même aux dernières expériences sur les photons et les atomes, et donc ça ne vous étonnera pas que je parle maintenant un peu plus des expériences qui sont faites avec ces photons et ces atomes dans une cavité. Alors, je n'ai pas du tout le temps de rentrer dans les détails expérimentaux, et de vous décrire toutes les astuces et les techniques qu'on utilise pour essayer de mettre en évidence l'intrication quantique de la façon la plus simple possible. Je vais simplement vous donner quelques idées générales. D'abord, les expériences qu'on peut faire à résonance, c'est-à-dire qu'on s'arrange pour que la cavité soit à une fréquence, soit accordée exactement à la fréquence de transition entre deux niveaux de Rydberg, que je vais représenter exactement comme je l'ai fait tout à l'heure, par un niveau vert et un niveau violet. C'est-à-dire que si l'atome se trouve dans le niveau supérieur, il peut émettre un photon dans la cavité et passer dans le niveau inférieur. S'il est dans le niveau inférieur et si la cavité contient un photon, il peut ramasser ce photon, l'absorber et monter dans le niveau du haut. Bien entendu, la probabilité pour qu'un tel événement se produise dépend du temps d'interaction. Et en réglant la vitesse de l'atome, on peut choisir le temps d'interaction pour que l'atome ait une probabilité exactement égale à 50% d'émettre un photon. Donc si vous commencez avec un atome excité et une cavité vide, et que l'atome a 50% d'émettre le photon, probabilité de 50% d'émettre le photon, et si vous posez la question après que l'atome soit sorti, l'atome a-t-il émis un photon dans la cavité ou non ? Vous commencez, je pense, à vous habituer à la réponse bizarre de la mécanique quantique, elle va répondre oui et non à la fois. Et donc le système va se trouver dans une superposition de l'état où l'atome est excité et la cavité est vide, et de l'état dans lequel l'atome est désexcité et la cavité contient un photon. Donc on a maintenant une paire EPR, mais une paire EPR atome-photon. On peut compliquer la situation en envoyant un deuxième atome. On commence donc par envoyer le premier atome dans le même état que tout à l'heure, et puis on le fait suivre par un deuxième atome qui, lui, est dans l'état du bas et qui est prêt à absorber le photon si le premier atome l'a émis. Et on règle pour le deuxième atome le temps d'interaction pour qu'il absorbe ce photon avec probabilité unité. On fait durer l'interaction deux fois plus longtemps que pour le premier. Si on pose maintenant la question, lorsque les deux atomes sont sortis, est-ce que l'énergie du photon a été transférée du premier atome au second ? La nature nous répond oui et non. Et donc, on a maintenant une paire EPR de deux atomes. Le premier atome est dans l'état du bas, le deuxième excité, et l'inverse. Et avec ces paires EPR, on a fait des expériences intéressantes. Et puis, on peut compliquer la situation. On peut envoyer un troisième atome et on peut fabriquer des situations où maintenant on intrigue trois atomes. On a trois atomes qui sont dans un état et à la fois dans l'autre, et on fabrique maintenant des systèmes non séparables à plusieurs atomes. Et on peut de cette façon-là tricoter de l'intrication sur une chaîne d'atomes de plus en plus longue. Actuellement, nous en sommes à trois, mais on peut mener des expériences plus loin, je pense, et arriver donc à fabriquer de l'intrication quantique, et j'en parlerai peut-être dans les minutes finales. Donc voilà ce qu'on peut faire dans le cas résonant. Mais vous voyez que ça se limite simplement à deux, trois particules pour l'instant. Si on veut maintenant intriquer des systèmes qui contiennent plus de particules, en particulier plus de photons, on peut le faire à condition de passer à des processus non résonants. C'est-à-dire qu'on va fabriquer, on va maintenant dans l'expérience s'arranger pour que l'atome et la cavité n'aient pas la même fréquence. Vous voyez ici la fréquence de la cavité, et il y a un désaccord de fréquence delta entre la fréquence de la cavité et la fréquence atomique. Dans ce cas, l'atome ne peut plus absorber ou émettre de photons dans la cavité parce que l'énergie n'est plus conservée. Alors, à première vue, on peut penser qu'il ne se passe rien, mais en fait, ce n'est pas exact. Même si deux oscillateurs, même si deux systèmes physiques n'ont pas la même fréquence, lorsque vous les couplez, il va y avoir un effet physique. Chaque système va légèrement déplacer la fréquence de l'autre. Alors, ce phénomène est bien connu en électromagnétisme. C'est ce qu'on appelle l'effet d'indice. Si vous avez de la lumière qui se propage dans un milieu non résonant, vous savez que cette lumière va se propager à une vitesse différente de ce qu'elle a dans le vide. C'est l'effet d'indice de réfraction. Et cette différence de vitesse de propagation signifie que la longueur d'onde de la lumière dans le milieu est différente de ce qu'elle est dans le vide, ce qui revient à dire que la cavité résonante a une longueur apparente différente. Donc cet effet d'indice est un effet que je vais utiliser dans ces expériences, mais ici c'est un indice à un seul atome. Je vais m'arranger pour voir des effets lorsque un seul atome se trouve à l'intérieur de la cavité. Alors qu'est-ce qui va se passer ? J'ai représenté ici la fréquence de la cavité en fonction de la position de l'atome. Vous voyez, lorsque l'atome est à l'extérieur de la cavité, la fréquence a une certaine valeur, et puis lorsque l'atome rentre dans la cavité, la fréquence de la cavité change. Et puis, lorsque l'atome sort, la cavité reprend sa même fréquence. Alors, il y a un dernier point qui est très important, c'est que le signe de cet effet dépend du niveau d'énergie atomique. Vous voyez que si l'atome, au lieu d'entrer dans la cavité dans le niveau vert, traverse la cavité dans le niveau violet, le déplacement de fréquence prend le signe opposé. Alors maintenant, reposons notre question fatidique au système. Lorsque l'atome est envoyé dans une superposition d'état, quel est le déplacement ? Est-ce qu'il est plus delta oméga ou moins delta oméga ? Classiquement, vous répondriez, eh bien, plus, plus, moins, ça fait zéro, il n'y a pas de déplacement de fréquence. Mais la physique quantique ne répond pas comme ça. La physique quantique répond, le déplacement est à la fois plus delta oméga et moins delta oméga, une superposition linéaire des deux, et on va avoir une intrication qui va être liée à ce phénomène. Alors je vais vous montrer rapidement quel est le type d'intrication qu'on attend dans ce cas. Je vais compliquer un tout petit peu l'expérience en couplant maintenant ma cavité à une source micro-onde extérieure par l'intermédiaire d'un guide d'onde. Et j'ai une source extérieure qui a envie d'envoyer des photons dans la cavité, mais ma source a une fréquence, que j'ai représentée ici en marron, qui est différente de la fréquence de la cavité. Donc lorsque vous essayez de faire rentrer les photons dans la cavité vide, les photons ne veulent pas rentrer parce que la cavité n'a pas la bonne fréquence. On peut dire que l'impédance de la cavité n'est pas adaptée à la source, et donc les photons, au lieu de rentrer, sont réfléchis et ne rentrent pas dans la cavité. Et puis vous envoyez un seul atome à travers la cavité, et cet atome, vous vous arrangez pour que, lorsqu'il arrive dans la cavité, il mette la cavité exactement en résonance avec la source. Donc lorsque l'atome se trouve à l'intérieur de la cavité, pendant un bref instant, la source et la cavité sont en résonance, les photons rentrent. Puis l'atome sort, la porte se referme et les photons restent stockés dans la cavité pendant un temps qui est de l'ordre d'une milliseconde, qui est le temps de relaxation de ma cavité. Et donc vous voyez que cet atome dans l'état E joue le rôle d'une porte ouverte pour les atomes lorsque l'atome se trouve dans la cavité, pour les photons lorsque l'atome se trouve dans la cavité. Si maintenant vous envoyez le même atome dans l'autre état, vous voyez que le déplacement de fréquence a un autre signe et à aucun moment la source n'est en résonance avec la cavité. Il en résulte que les photons n'entrent jamais, et donc l'atome dans cet autre état joue le rôle d'une porte fermée. Alors bien entendu, vous savez ce qu'on va faire maintenant, on va envoyer une superposition des deux. Classiquement, on le sait depuis Alfred de Musset, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Mais ça, c'est de la physique du 19e siècle. La porte peut en fait être ouverte et fermée, et vous voyez que maintenant vous avez une superposition d'une situation où vous avez, par exemple, une dizaine de photons dans la cavité et l'atome dans un état, et un état dans lequel la cavité est vide, et maintenant vous avez une vraie situation à l'achat de Schrödinger. Vous avez un nombre de quanta assez important, on l'a fait avec une dizaine de photons, et une superposition de ces deux états. Alors en fait, on a fait une expérience qui est une variante de celle-là, pour des raisons pratiques que je n'ai pas le temps d'expliquer. Je vais simplement vous dire en deux mots ce qu'on a réellement fait, parce que c'est important pour la description des résultats. On a un peu changé la chronologie des événements. On a commencé par remplir la cavité par un petit champ en mettant la source en résonance avec la cavité, et puis on a coupé la source. Et donc on a dans la cavité un champ d'une dizaine de photons, et on peut se représenter ce champ comme une amplitude de champ électrique qui oscille au cours du temps. Vous savez que le champ électrique dans la cavité, donc en un point, va être une fonction oscillante avec une fréquence qui est la fréquence du champ dans la cavité. Et vous savez qu'une fonction oscillante du temps, on la représente souvent en électrotechnique comme un nombre complexe ou comme un vecteur dans un plan. La longueur du vecteur représente l'amplitude du champ et la direction du vecteur représente la phase du champ. Donc notre champ va être un petit vecteur dans le plan avec un petit cercle d'incertitude parce qu'on n'a pas beaucoup de photons et qu'on a donc des fluctuations quantiques sur l'amplitude du champ et sur la phase. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant quand j'envoie un seul atome dans la cavité ? Si mon atome traverse la cavité dans l'état E, il va déphaser le champ dans un sens. S'il la traverse dans l'état G, il va le déphaser dans l'autre. Et donc, vous allez avoir deux phases à la fois. Vous allez avoir une superposition de champs qui vont atteindre leur maxima et leur minima à deux séries d'instants différents. Et dans la représentation de Fresnel que j'ai faite là, vous allez avoir deux flèches qui vont pointer dans des directions différentes. À nouveau, une situation schizophrénique à l'achat de Schrödinger. Vous avez corrélé la phase du champ à l'état d'énergie de l'atome. Et on peut dire dans cette expérience qu'en fait, le champ est une espèce de pointeur, une espèce d'aiguille d'appareil de mesure qui nous indique quelle est l'énergie de l'atome. Donc on fait, en quelque sorte, dans cette expérience, une mesure de l'énergie de l'atome si on est capable de déterminer la direction du champ, c'est-à-dire la phase du champ. Ceci nous conduit à la description d'une expérience très simple de complémentarité. Je vous rappelle qu'au début de cet exposé, je vous ai dit qu'on pouvait faire des franges de Ramsey en soumettant un atome à deux impulsions successives de champ qui mélangent les niveaux. Une impulsion à l'instant T1, une impulsion à l'instant T2. Maintenant, vous voyez que si je refais cette expérience, et si entre les instants T1 et T2, je place ma cavité avec mon petit champ dans la cavité, vous voyez que ce qui va se passer, c'est que si l'atome traverse la zone entre T1 et T2 dans le niveau vert, il va faire tourner la phase du champ dans un sens. S'il traverse l'intervalle T1 et T2 dans le niveau violet, il va faire tourner la phase du champ dans l'autre sens. Et vous voyez que le champ qui se trouve à l'intérieur de la cavité joue le rôle d'environnement, il joue le rôle d'un espion qui prend deux valeurs différentes, deux états différents, suivant le chemin qu'a suivi l'atome. En conséquence, les interférences doivent disparaître. Et ceci, même si vous ne cherchez pas à mesurer le champ, le simple fait que vous pourriez faire cette mesure, que l'état de l'atome s'est intriqué à l'état du champ, suffit à faire disparaître les franges. Et vous voyez effectivement que les franges, initialement visibles, si le pointeur ne distingue pas les deux états, les franges disparaissent lorsque les deux états du pointeur permettent de distinguer les deux états. Donc vous avez là une expérience très claire de complémentarité qui montre que la physique obéit bien à cette notion développée par Bohr. Alors le dernier point que je voudrais aborder maintenant, c'est combien de temps survit cette fameuse superposition mésoscopique. Je reprends le cas où vous avez une dizaine de photons en superposition avec une cavité vide. Le problème de la décohérence est le suivant. Qu'est-ce que c'est que l'environnement dans ce problème ? L'environnement dans ce problème, c'est le champ extérieur et le fait qu'en raison des imperfections de la cavité, de temps en temps, parce que la cavité a une certaine rugosité, un photon va s'échapper vers l'extérieur et partir dans l'environnement. Mais vous voyez que dès que le premier photon part dans l'environnement, bien c'est terminé, parce que si un photon est parti, ça veut dire que vous étiez nécessairement dans ce cas-là et pas dans celui-là. Donc le premier photon qui s'échappe dans l'environnement sert d'espion pour vous dire que vous êtes dans un chemin et pas dans l'autre. Et le temps que le premier photon va mettre à disparaître est extrêmement court. Si vous avez un milliard de photons et un temps de relaxation d'une milliseconde, il vous faudra un milliardième de milliseconde pour que le premier photon s'échappe et la cohérence quantique aura disparu. Donc on comprend que ces cohérences quantiques disparaissent très très vite pour les champs macroscopiques et qu'on ne peut faire des expériences pratiquement que si n n'est pas trop grand. Et ça vous donne un aperçu sur cette transition classique quantique. Alors on a fait cette expérience et on l'a fait. Le principe est très simple. Un premier atome traverse la cavité et prépare l'état chat de Schrödinger. On laisse passer un délai et un deuxième atome va jouer le rôle de la fameuse souris quantique dont je vous parlais tout à l'heure. Et on va voir dans les propriétés du deuxième atome si la cohérence quantique a survécu. Et on a un signal qui décroît avec le délai et qui décroît d'autant plus vite que l'on a séparé davantage les deux composantes du chat. Alors les points sont expérimentaux, la courbe est théorique, et on peut dire que ce type de courbe saisit vraiment la décohérence au vol et qu'on voit par ce type d'expérience que la séparation des états est importante. Plus la séparation des états est grande, plus la décohérence est rapide. Alors la conclusion de ça, c'est que les cohérences quantiques sont extrêmement fragiles. Vous voyez qu'elles s'évanouissent dès qu'un seul quantum s'est perdu dans l'environnement. Et vous voyez que si vous essayez d'imaginer une situation floue comme ça, où le chat est à la fois vivant ou mort, le processus va être quasiment instantané, parce qu'on ne peut pas conserver et suivre tous les quanta du système. Donc très vite, la superposition vivant et mort devient vivant ou mort. Alors, j'insiste cependant sur le fait que la mécanique quantique reste fondamentalement aléatoire. Avant d'ouvrir la boîte, vous n'avez pas moyen de savoir si le chat sera trouvé vivant ou mort dedans. Mais c'est une incertitude statistique classique. Autrement dit, Si Dieu joue au dé, ce jeu de dé devient très rapidement un jeu classique, c'est-à-dire que dans la règle du jeu, on n'a plus le droit de faire interférer deux faces du dé différentes. Je ne sais pas si ça console vraiment Einstein. Mais je ne peux pas terminer cet exposé sans dire quelques mots d'une des raisons pour lesquelles ces expériences ont acquis beaucoup d'importance, en tout cas suscitent beaucoup d'intérêt, c'est le problème de l'information quantique. Je voudrais essayer de retraduire un petit peu ce que je vous ai dit là en termes d'information quantique et en termes de théorie de l'information. Alors, la théorie de l'information, c'est une théorie qui cherche à montrer comment on peut stocker, propager de l'information ou manipuler de l'information pour faire du calcul. Et on peut décrire les expériences que je vous ai faites en termes d'information, théorie d'information, en disant par exemple que des systèmes à deux niveaux, zéro ou un photon, atome dans l'état E ou dans l'état G, sont des porteurs d'information, de bits d'information, on peut transporter l'information oui ou non, 0 ou 1, en la codant dans ces systèmes, et que les opérations que je vous ai décrites d'interaction entre atomes et photons sont des opérations d'interaction entre bits qui réalisent ce qu'on appelle des portes. Par exemple, on peut réaliser l'expérience suivante, que je n'ai pas le temps de décrire. Si vous avez 0 photon dans la cavité, l'atome traverse la cavité en restant dans le même niveau. Si par contre vous avez 1 photon, l'atome change de niveau, et le nombre de photons, lui, ne change pas. C'est ce qu'on appelle une porte conditionnelle. Le basculement de l'atome est conditionné à l'état du champ, et cette porte conditionnelle constitue une mesure non destructive du photon. Vous voyez qu'à la fin, le photon est toujours dans le même état. Néanmoins, on peut lire le nombre de photons, savoir si on a 0 ou 1 photon, en mesurant l'état de l'atome. Cette mesure, on l'a faite au laboratoire récemment, c'est une mesure non destructrice de photons, et j'insiste sur le fait que c'est complètement différent de toutes les mesures que l'on connaît depuis plus de 100 ans sur le photon. Lorsque vous mesurez détecter un photon avec un photodétecteur, vous utilisez l'effet photoélectrique, votre rétine aussi détruit le photon, donc on ne peut jamais dire dans une expérience traditionnelle « j'ai un photon », on peut dire « j'avais un photon mais il a disparu ». Ici, c'est un type d'expérience où le photon est toujours là et si on envoie un autre atome après le premier atome, il reverra le même photon. Mais ça, c'était une digression. Je crois que le point important, c'est qu'on peut réaliser des portes de ce genre. Et les ordinateurs fonctionnent sur ce type d'opération. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant qu'un ordinateur classique. Les bits peuvent être mis en superposition. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer des circuits logiques dans lesquels on aura à la fois la valeur 0 et la valeur 1, et les calculs se feront avec ces deux valeurs à la fois. On dit qu'on a affaire à ce moment-là à des bits quantiques ou des qubits, pour dire les choses plus rapidement. Et voyez que la même porte que celle que j'ai décrite là, si on l'alimente par un bit dans une superposition des états 0 et 1, va vous fournir une intrication à la sortie. Donc ces portes quantiques sont des machines à faire de l'intrication. Et vous voyez que si vous vous servez de la sortie d'une porte pour alimenter l'entrée de la porte suivante, vous allez pouvoir fabriquer des architectures énormes où vous allez avoir une intrication qui va se répartir dans un système gigantesque. Alors, sur le plan théorique, c'est très intéressant parce que la combinaison de ces portes ouvre des perspectives fantastiques pour le calcul. On fait en quelque sorte du calcul parallèle. On peut calculer toutes les valeurs d'une fonction à la fois en faisant rentrer une superposition des états correspondant à toutes les valeurs possibles du paramètre qu'on veut mesurer. Et on peut montrer que pour certains types de calculs, ceci, sur le plan des principes, permettrait de fabriquer des ordinateurs d'une puissance extraordinaire. Mais il faut faire attention à la décohérence, parce que ce qu'on fabrique là, c'est un gigantesque chat de Schrödinger, et la décohérence va le rendre très extrêmement difficile à maintenir. Alors je voudrais conclure en citant, pour finir, le physicien américain Archibald Wheeler, qui est l'un des derniers survivants de la génération des fondateurs de la théorie quantique. Wheeler, en réfléchissant sur le siècle des quantas, a parlé de la gloire et de la honte du quantum. Alors, la gloire, c'est bien entendu les succès fantastiques de tout le XXe siècle pour la compréhension de la nature. La mécanique quantique nous a fait comprendre ce qu'est la nature. La honte, c'est qu'on comprend ce qu'est la nature, mais qu'on ne comprend pas ce que c'est que la théorie quantique. Feynman a dit « personne ne comprend rien à la mécanique quantique ». Alors, lorsqu'on dit une phrase de ce genre, ça, parfois, il faut le prendre au premier degré, et parfois au second, ça dépend de qui parle. Dans le cas de Feynman, je crois qu'il fallait le prendre au second degré. Mais c'est vrai qu'on ne comprend pas, et la raison pour laquelle on ne comprend pas, je crois, c'est qu'on essaie d'appliquer un langage issu de notre conception classique du monde pour décrire des phénomènes qui ne le sont pas. Alors, il y a deux types de physiciens, comme vous l'avez vu dans cet exposé. Vous avez ceux qui suivent la sagesse de Bohr, qui disait à Einstein, arrête de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Hein, la nature est comme ça, il ne faut pas se poser de questions, il faut calculer avec les préceptes de théorie quantique, et ceux-là ont eu des succès fantastiques. Et puis, il y en a quelques autres qui suivent plutôt Einstein, qui disait que Dieu ne joue pas au dé avec l'univers, qui cherche à réconcilier notre conception classique du monde avec trouver un formalisme de mécanique quantique qui réconciliera les deux. Et chacun a son opinion sur la question. Je crois que ce qui est nouveau maintenant, c'est que les expérimentateurs peuvent dire leurs mots. Ce n'est pas simplement une discussion de théoriciens qui fabriquent des expériences de pensée, on peut vraiment faire les expériences dans le laboratoire. Et alors je terminerai sur trois conclusions. D'abord, je voudrais indiquer que réaliser des expériences de pensée est vraiment très amusant et très excitant, et qu'on ne perd jamais sens de l'émerveillement lorsqu'on voit réellement au laboratoire les atomes et les photons danser en obéissant aux prescriptions de la théorie quantique. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de vraiment pouvoir le voir de ses propres yeux. La deuxième conclusion, c'est que maintenir un chat de Schrödinger suspendu dans une superposition d'état est extrêmement difficile et deviendra de plus en plus difficile quand on voudra augmenter la taille des systèmes. Et mon opinion personnelle, c'est que l'ordinateur quantique utile n'est vraiment pas pour demain. Et enfin, la troisième conclusion, c'est que le futur réserve des surprises, et que même si on ne fabrique pas l'ordinateur quantique, on fera sans doute des choses extrêmement intéressantes avec ce type de concept. Merci.
De votre exposé, il semble résulter que la décohérence est un phénomène physique au sens ordinaire. Ce n'était pas la position d'Omnes et de beaucoup d'autres il y a quelques années. Enfin, si, plutôt, c'était leur position, mais elle était très contestée. Est-ce qu'actuellement, on peut dire que, effectivement, toutes les interprétations des expériences que vous avez décrites permettent d'assurer que la seule interprétation valable est celle de la décohérence ?
Écoutez, toutes les expériences qu'on a faites s'interprètent très bien dans le cadre de la théorie de la décohérence, qui est une théorie parfaitement physique, qui est la théorie de la relaxation appliquée à des systèmes dans lesquels il y a un paramètre qu'on fait passer du niveau microscopique à du niveau macroscopique. Et je suis sûr que Omnes est parfaitement d'accord avec ce point de vue. Et un autre physicien qu'il faut citer dans ce cas, c'est Zurek, qui a popularisé cette idée. La notion de décohérence permet d'éclairer pas mal d'aspects. Il y a un aspect qu'elle ne résout pas du tout, c'est l'aspect fondamentalement aléatoire de la mécanique quantique qui est irréductible, bien sûr.
Monsieur.
Oui, monsieur, je voudrais vous poser une question pour éviter de rester dans un état d'intrication métaphysique quantique. Est-ce que tout ce que vous venez de dire consiste à dire que finalement l'interprétation de Copenhague est celle qui aujourd'hui a gagné par rapport à des philosophies plus réalistes? Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, c'est est-ce que le principe de causalité perdure toujours en physique quantique?
Oui, alors je répondrai d'abord à la deuxième question, mais c'est la plus facile. Oui, le principe de causalité perdure toujours, c'est-à-dire que l'existence de ces corrélations entre particules à distance, corrélations instantanées, ne viole en aucun cas le principe de causalité parce qu'elles ne permettent pas de transporter de l'information. On constate ces corrélations lorsque les expérimentateurs qui sont situés très loin l'un de l'autre confrontent leurs résultats expérimentaux à la fin, ils constatent qu'il y a eu des corrélations. Mais on ne peut pas utiliser ces corrélations pour transporter de l'information plus vite que la lumière. Bon, quant à la première question, tout ce que je vous ai décrit là est tout à fait conforme à l'interprétation de Copenhague. Dans la mesure où les autres sont conformes, obtiennent les mêmes résultats, elles sont aussi valables. Si vous voulez, le problème des interprétations, c'est que, ou bien elles prévoient, tant qu'elles prévoient des choses identiques, c'est simplement une question de préférence personnelle. C'est à partir du moment où elles permettent de prévoir des résultats différents qu'on peut se poser la question de savoir laquelle est vraie. Et jusqu'à présent, rien n'est venu mettre en doute l'interprétation de Copenhague, de la mécanique quantique.
Monsieur.
Oui. Au début de votre exposé, vous avez dit que la physique quantique était à la base de toute la physique de la nature, disons. Oui. Pouvez-vous donner un exemple? Vous avez cité le cas de la biologie. Pouvez-vous donner un exemple concret?
Non.
Non.
Non, ce que je veux dire simplement, c'est que la biologie, la chimie joue un rôle important en biologie, et la chimie, personne ne doute que la chimie est à la base quelque chose de quantique.
Oui.
Bien. Pour comprendre des réactions chimiques, il faut une image.
Tout à fait d'accord, oui. Mais enfin, bon. Il n'est pas sûr que toute la biologie.
Non, j'ai pas dit que toute la biologie serait réduite à ça. J'ai dit qu'il fallait tenir compte de la mécanique quantique pour comprendre. Maintenant, il y a certainement des concepts qui de complexité en particulier, qui jouent un rôle spécifique en biologie et pas dans les autres, pas dans les sciences de la nature. Ça, je suis tout à fait d'accord.
D'accord, merci.
Monsieur.
Je voudrais corriger ce que je pense être une petite injustice. Dans votre transparence sur les fondateurs de la mécanique quantique, vous avez cité les quanta, vous avez cité Planck, vous avez cité Einstein, Heisenberg, Schrödinger, vous n'avez pas cité explicitement De Broglie, qui pour moi est le véritable père fondateur, puisque ce n'est pas la mécanique, vous l'avez cité après pour la fonction d'onde, mais parmi les pères fondateurs, ce n'est pas la mécanique quantique qui nous permet de comprendre l'univers, c'est De Broglie, le génie de De Broglie, d'avoir découvert la dualité de la matière, de l'électron. Il me semble que c'était important de le souligner.
Non, j'ai prononcé le nom de De Broglie, effectivement. J'ai pas cherché à faire vraiment une histoire juste de la mécanique quantique. Vous comprenez que c'était difficile.
Non, parce que sans De Broglie, il est évident que ni Heisenberg, ni Schrödinger, ni Dirac n'auraient existé vraisemblablement.
Alors, c'est vrai que Schrödinger, j'ai lu que Schrödinger a écrit son équation à la suite d'un séminaire où il avait présenté les résultats de De Broglie et où le physicien classique de Bayes du début du siècle est venu le voir à la fin et lui a dit « Tout ce que vous racontez n'a aucun sens. S'il y a une onde, il faut une équation. » Et c'est ça vraiment la différence entre De Broglie et Schrödinger. De Broglie a eu l'idée, l'intuition géniale qu'il y avait une onde, mais tant qu'on n'avait pas écrit l'équation, c'était inutile sur le plan pratique pour prévoir et pour faire des calculs. Donc il y a effectivement le besoin des deux, l'idée fondamentale au départ de De Broglie et le génie de Schrödinger qui a trouvé l'équation à laquelle cette onde obéissait.
Mais est-ce que la dualité n'est pas plus importante que la fonction d'onde, en quelque sorte? Est-ce que le phénomène plus essentiel que le formalisme mathématique pour le représenter.
Oui, bon, ça c'est un débat qui peut être assez long.
J'ai le micro là.
Oui, allez-y. Qui là? Léa là-haut, et puis j'étais aux questions suivantes. Là.
Oui, est-ce que les interprétations de la mécanique quantique ne sont pas des tentatives pour décrire la mécanique quantique en termes classiques?
Oui.
Et par là même voué par avance à l'échec, et on ne saura jamais départager les différentes interprétations.
Oui. Non, c'est un point de vue que j'ai souvent tendance à partager. Maintenant, d'autres personnes vous diront qu'il y a quelque chose d'autre. En particulier, j'ai dit que la mécanique quantique expliquait tout. Il y a quand même le fait que la gravitation ne rentre pas dans le cadre quantique pour l'instant, et donc certains pensent que le fait que la gravitation n'entre pas dans ce cadre va conduire à peut-être non pas remettre en cause, mais à adapter la mécanique quantique et arriver à quelque chose qui sera peut-être, lorsqu'on considérera des échelles de temps ou de dimensions très différentes de ceux auxquels on pense actuellement, arriver à des modifications. Donc, mais est-ce que ça va changer le problème de l'interprétation? J'en suis pas sûr, et je suis prêt à penser comme vous que tant qu'on applique des schémas classiques pour décrire une situation qui n'est pas du tout et qu'on essaye de faire rentrer ça dans le domaine en utilisant un langage pour lequel la situation n'est pas adaptée, on court à l'échec.
Monsieur tout en haut.
Bonjour. Je voudrais revenir sur la décohérence. Quand on fait une mesure en mécanique quantique, c'est au moment où on fait la mesure que les probabilités apparaissent, si j'ai bien compris. Or, la décohérence, elle fait... si les probabilités interviennent, c'est parce qu'on connaît mal l'état quantique de l'appareil de mesure, parce qu'il est trop gros et qu'on ne le connaît pas bien. Et donc, c'est parce qu'on ne connaît pas bien cet état quantique de l'appareil de mesure, parce que c'est un appareil macroscopique, que les probabilités apparaissent. Donc, on a l'impression que les probabilités quantiques apparaissent parce qu'on ne connaît pas bien l'état quantique de l'appareil de mesure.
Je crois que le problème que vous soulevez là est un problème important qui est la division du système qu'on étudie entre la partie qui est le système qu'on mesure, qui est un système microscopique, et puis le monde extérieur. Et il est clair que l'appareil de mesure, dans l'interprétation orthodoxe de la théorie quantique, l'appareil de mesure n'est pas un appareil décrit dans le cadre quantique. C'est un système qui est considéré par Bohr en particulier comme étant un système classique. Ce que cherche à faire la théorie de la décohérence, c'est à essayer d'intégrer plus l'appareil de mesure dans le cadre du formalisme en lui donnant au départ un statut quantique, quitte à faire intervenir dans cette description le fait qu'effectivement on est incapable de décrire l'ensemble des paramètres qui le définissent et qu'on a un côté statistique dans le problème qui est lié au fait qu'il est absolument impossible de contrôler tous les paramètres de l'appareil de mesure. Mais ça, c'est une démarche qu'on suit également en physique classique. Si vous voulez décrire l'état du gaz dans cette pièce, aucun physicien, même classique, ne va essayer d'assigner à chaque molécule du gaz des coordonnées et les suivre. On décrit des paramètres d'ensemble en essayant de tenir compte du caractère statistique du problème auquel on s'intéresse. Il y a un aspect de la théorie de la décohérence qui ressemble un petit peu à cet aspect statistique, mais il y en a un autre qui est différent, qui est lié au fait que le caractère probabiliste est intrinsèque et qu'on ne peut pas à aucun moment le réduire à une probabilité purement classique.
Oui, je voulais savoir si la physique quantique décrivait un monde en 3 dimensions ou en 4 dimensions ou en 2 dimensions, ou également savoir ce que vous pensiez de la théorie des cordes.
Je crois que, si je veux être honnête, je ne peux pas répondre à ce genre de questions parce que je sais que la théorie des cordes est une théorie qui essaye de pousser un peu plus loin l'unification des interactions, de comprendre en particulier le rôle que la gravité joue dans tout ça, mais je ne suis pas du tout un spécialiste et je ne peux rien vous dire là-dessus. Maintenant, les expériences que je vous ai décrites, ce sont des expériences dans l'espace ordinaire, de configuration ordinaire. Il ne faut pas confondre l'espace du physicien avec l'espace mathématique des états dans lesquels évoluent les états de Dirac ou les fonctions d'onde, qui sont des espaces abstraits qui peuvent avoir un nombre de dimensions complètement différents de l'espace ordinaire. Maintenant, il est vrai que lorsqu'on aborde les problèmes au niveau de la théorie des cordes, la théorie est effectuée dans des espaces de dimensions différentes de 3 ou de 4, mais ça, je ne veux pas rentrer dans ces détails. Je pense que vous avez déjà eu d'autres conférences de la série avec des conférenciers beaucoup plus qualifiés que moi pour traiter de ce problème.
Alors, on va prendre une avant-dernière question, et puis ensuite en haut.
Je suis là, en bas.
En bas,
monsieur,
en bas. Oui, pardon.
Bonsoir, monsieur. En fait, en physique quantique, vous parlez du fait qu'une mesure affecte en un point la réalité physique, en un deuxième point. Mais en fait, ça n'a que la probabilité de l'affecter dans un deuxième point. Alors, parce qu'en fait, on raisonne sur quoi ? Sur des probabilités. Et dans les probabilités, il y a aussi le cas qui peut se produire où ça ne se passe pas.
Non, mais justement, c'est un cas où c'est pas simplement des probabilités. Si vous prenez, par exemple, ce fameux doublé EPR, si une des particules est trouvée dans un état, l'autre est à coup sûr dans l'autre. Il y a des cas où c'est pas probabiliste, où c'est certain.
La dernière question, avant que le micro monte.
Oui, bonjour. Un journal de vulgarisation a récemment parlé des effets quantiques, comme quoi si on crée une paire particules-antiparticules, si on éloignait la particule et l'antiparticule quantique, donc on ne sait pas l'état, laquelle est laquelle en fait, si on les écarte suffisamment, si on fait la mesure sur l'une de ces deux particules, que l'on constate qu'elle est soit particule, soit antiparticule, instantanément l'autre devient, enfin, ou est précédemment, la particule ou l'antiparticule ouais. correspondante. De fait, ça voudrait dire qu'on a un voyage d'information, en quelque sorte, plus rapide que la lumière. Donc, ça ne correspond pas tout à fait avec ce que vous aviez dit.
Non, justement, je crois que ce que vous décrivez tout à fait dans le cadre de ce que j'ai dit, le fait qu'il y ait des corrélations à distance ne viole pas le principe de causalité. Je peux vous donner un exemple très simple, classique. Imaginez que vous avez un expéditeur qui envoie dans une enveloppe une boule bleue et dans une autre enveloppe une boule rouge, et qu'il envoie la boule bleue à New York et la boule rouge à Tokyo, et qu'il demande aux deux observateurs d'ouvrir leurs enveloppes au même instant. Lorsque l'un des observateurs va ouvrir son enveloppe et voir que sa boule est bleue, il saura que l'autre, au même instant que l'autre sera rouge, et ceci ne viole en aucun cas la causalité, parce qu'il y a une cause d'originelle commune. Alors ce sont des corrélations classiques. Les corrélations quantiques sont plus subtiles. On ne peut pas les expliquer de la façon dont que je viens de faire là, mais en tout cas, en ce qui concerne la causalité, ça reste vrai que le fait que les résultats des mesures sont corrélés ne permet en aucun cas de communiquer de l'information entre les deux observateurs plus vite que la lumière. Si on veut imaginer des schémas qui communiquent de l'information entre les deux observateurs, il faut un lien de communication classique, une ligne téléphonique ou des ondes radio qui, elles, ne vont pas plus vite que la lumière. Il y a un exemple qui a été développé récemment, dont je n'ai pas eu le temps de parler, qu'on appelle la téléportation quantique. On peut transporter un état quantique d'un point à un autre. On se base pour cela sur les corrélations à la EPR, mais pour achever l'opération de téléportation, il faut qu'il y ait un signal parfaitement causal qui se propage d'un observateur à l'autre pour que l'observateur puisse reconstituer l'état de la particule in fine.
Merci.